Voilà, Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe de l'autre côté.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Proprio fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, les racisés, les colonisés, les délicats du cœur, les woke du cinéma. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, je suis bien entourée par René. Salut René.
Bonjour.
Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Clara aussi autour de cette table. Salut Clara.
Salut.
Et à la réalisation, Sylvain.
Bonjour.
Hello. Oui, je voulais vous faire réagir un peu au début de cette émission.
Ben voilà, on s'est fait. On y va ?
Oui, allez, c'est bon, on y va. Cessons toutes ces simagrées. Au programme de ce cinémascope, Chien blanc, Memory, les quatre âmes du coyote, et puis on parlera aussi de ce qui se passe pour le Festival du film de solidarité internationale qui se déroule dans la Drôme et dans l'Ardèche de aujourd'hui. Oui, on est bien le 31 mai jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, mais on va commencer par Chien blanc avec un petit son.
Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es perdu?
Tu parles à qui, papa?
Il y a un chien, viens voir. Regarde.
Je crois qu'il est mort.
Mais non, regarde, il est sympa. On garde.
Oui, on garde.
White dog, they call him. Very carefully trained to teach him to catch runaway slaves.
Basically, any black person. We have no choice. We have to put him down.
No, it's the bastards who trained him who should be put down.
I have some very sad news for all of you. Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis.
Il est raciste, ton chien. Il faut le tuer.
Alors on tue tous les racistes, puis après on élimine tous ceux qui pensent pas comme nous. Tu sais ce que ça fait d'enlever la vie.
There's one thing that sums up an intellectual. It's guilt.
Monsieur Romain Gary, vous êtes un écrivain connu pour votre humanisme. Vous êtes aussi le mari de Jean Seberg, grande actrice.
Chien blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette avec Denis Ménochet qu'on a pu entendre, Casey Roll et Casey Collins. Alors, on connaissait le roman autobiographique de Romain Gary, publié en 1970, Chien blanc. L'adaptation, déjà, au cinéma de Samuel Fuller, White Dog, en français, c'était Dressé pour tuer, en 1982. Et là, donc, on a cette adaptation de la réalisatrice canadienne, Anaïs Barbeau-Lavalette. Tu es allé le voir, Olivier, qu'en as-tu pensé ?
Oui, j'ai été voir ça. Donc la bande-annonce nous explique le synopsis un petit peu. Romain Gary et Jean Seberg vivent à Los Angeles avec leur fils Diego. Et un jour de pluie, ils entendent un chien gémir dehors, à leur porte. Et ils le font entrer, il les suit. Et puis il s'avère ensuite que le chien attaque systématiquement les Noirs. Mais il les attaque réellement. Il est mort au bras ou à la gorge s'il peut, quoi. C'est un chien blanc, White Dog. C'est le nom qu'on donne à ces chiens qui, depuis l'époque de l'esclavage, étaient dressés particulièrement pour rattraper les esclaves en fuite, qu'on cherchait souvent pas spécialement à récupérer pour qu'ils viennent travailler, mais qu'on entendait supprimer pour montrer qu'on ne fuit pas, quoi. Donc on pouvait lâcher les chiens et puis ensuite les pendre. Voilà. Alors, on est, vous voyez l'ambiance, c'est gay d'entrée. Et alors, on est en 68, et le film commence par ça. Donc, je ne gâche rien, je ne divulgue rien. Le film commence par l'annonce par Bob Kennedy de l'assassinat de Dr. Martin Luther King.
Qu'on vient d'entendre dans la bande-annonce.
Voilà, je n'avais pas chopé. Et donc, on est en pleine période d'émeute pour les droits civiques, en particulier en Californie, à Los Angeles, très, 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 très agité. Et Jean Seberg, l'épouse de Romain Gary et la mère de son fils, donc, prend fait et cause pour les représentants les plus extrêmes de la cause noire, qui sont les Black Panthers, qui sont pas des rigolos non plus, il faut quand même le préciser. Donc ça met le, c'est comme si on avait un, on s'approchait avec un microscope sur la famille de Romain Gary, dans laquelle, en plus avec ce chien, allait se reproduire tout ce qui se passe à l'échelle des États-Unis ou de la Californie ou de Los Angeles. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une espèce de focus où on va avoir tous les éléments du grand humanisme de Romain Gary au racisme absolu du chien. En passant par tous les degrés, l'innocence de l'enfant, bien sûr, et puis, c'est quand même le sujet du film, la difficulté tout à fait singulière dans laquelle se retrouve Jane Seberg, qui, blanche et plus blanche que blanche, tu peux pas, prend fait et cause pour ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, radical du côté noir, et finit par donc se faire rejeter évidemment par beaucoup de blancs, y compris des blancs relativement modérés, parce qu'elle prend fait et cause pour des extrêmes. Et puis, elle finit par se faire rejeter par la communauté noire, parce que finalement, elle est blanche. Et que, elle est blanche et qu'elle ne peut pas épouser la lutte des Noirs intimement, réellement. Forcément, de sa part, ça doit être la continuation de son travail d'actrice. Et puis, comme elle est extrêmement séduisante, et extrêmement, elle est très fine, elle est intelligente, elle est fine, elle est voilà, émotive. Donc, si vous voulez, elle prend tout sur elle, les misères qui sont faites au peuple noir, mais aussi ce rejet de la part de ces gens qu'elle prétend défendre. Donc, on est voilà. Alors, une chose qui moi m'a intéressé, c'est qu'en philo, j'ai souvent, bon, des ateliers philo que j'anime, etc., j'ai souvent entendu dire que l'ultra-violence, c'était l'animalité de l'homme en l'homme. Or, on l'entend souvent ça. Alors qu'il faut évidemment redéfinir l'animalité et l'humanité et préciser que les animaux ne sont pas violents, ils sont forts. C'est-à-dire un animal, il a un instinct, un prédateur par exemple, il a un instinct qui le guide vers sa proie. Et à sa proie, pardon, il ne fait que ce qu'il faut faire pour pouvoir la manger. Pas plus. Il n'y a pas à proprement parler de violence là-dedans. Il y a un exercice.
De cruauté, pas de cruauté.
Il n'y a pas de cruauté. L'idée de Romain Gary, je n'ai pas lu le livre hein, par contre. J'ai lu La vie devant soi qui avait donné un film. J'ai lu votre ticket atteint sa limite, etc., qui a été mis au cinéma.
Pour, voilà, cette limite.
Votre ticket n'est plus valable, merci voilà. René, oui, qui avait donné Les enfants des autres. L'idée de Romain Gary, évidemment, c'est que la violence et la cruauté, elle est humaine, elle est acquise et non pas naturelle. Il n'y a pas de raison naturelle de détester l'autre race, pas du tout. Au contraire, du point de vue naturel, ce que la nature nous commanderait, ce serait plutôt de nous mélanger. Hein, on le sait bien, c'est l'exogamie. Normalement, on va vers l'autre. Hein. Donc, naturellement, le racisme est absurde. Rationnellement, il l'est également. Par conséquent, c'est un acquis culturel pervers qui a été en quelque sorte ici greffé sur le chien. C'est-à-dire, on utilise la puissance du chien et on le fait obéir à des ordres d'hommes.
C'est doublement pervers.
C'est doublement pervers, voilà. Et c'est dans ce dilemme-là qu'est pris Romain Gary. De ce point de vue, le film repose donc sur une excellente idée qui permet de mettre toutes les données du problème dans une belle évidence. Ménochet, que moi j'avais vu dans Asbestas, il est magnifique, incroyable. Cassé rôle, je suppose, donc c'est elle qui joue Jane Seberg, parfaite. On est devant Jane Seberg, c'est quelque chose de... Et en plus, elle est très bien filmée, mise à son avantage dans ces cas-là. La limite, je trouve, du film, le sentiment... Clara, peut-être, dira ce qu'elle en pense, puisqu'on l'a vu ensemble quelque part. J'ai trouvé que c'était au spectateur de finir le film d'une certaine manière, comme si on avait à finir le montage, à finir l'unité esthétique du tout.
Et ça c'est problématique. Tu penses que c'est
ça n'est pas nécessairement problématique. C'est pour ça que ma critique est en demi-teinte, dans la mesure où...
Elle est ouverte elle-même, critique.
Ma critique est elle-même ouverte. J'ai, personnellement, été un peu gêné par le côté un peu ni fait ni à faire, un peu foutraque de l'ensemble.
D'accord.
Comme si on avait à finir non seulement le montage, la mise en scène nous-mêmes, mais comme si aussi on avait à tirer tous les éléments explicatifs nous-mêmes, quoi, vous voyez.
Ouais.
Donc, je plaide pas pour un cinéma didactique qui nous dirait tout, nous expliquerait tout. Mais enfin, avoir un peu quelques pistes.
Ce serait un manque de positionnement de la part de la réalisatrice pour toi ?
Oui, mais parce que ce non-positionnement, il est peut-être inévitable. C'est très, très compliqué de trancher.
Juger, pas évident.
Non.
Je sais pas, non. Clara, pas plus. Allez vous faire votre propre opinion.
Oui, je crois que c'est ça.
Donc, Chien blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est à voir au navire à Aubenas.
Un détail, il y a un film de Samuel Fuller, il me semble, sur le même sujet.
Oui, c'est ce que je disais, White Dog, qui s'appelle Dressé pour tuer, voilà. Et qui a été donc peut-être à voir. Je ne sais pas si vous l'avez.
La version Samuel Fuller est un metteur en scène très important et très original.
Très longtemps, c'est ça. Ouais.
Qui a toujours abordé des sujets extrêmement complexes.
Quand on parle de point de vue, justement, là, et de positionnement, je pense que ça faisait écho à ça. Enfin, je l'ai vu il y a très très longtemps.
Moi aussi. Et c'est un film qui m'avait marqué, qui m'avait.
Ah, tu l'as vu ?
Oui, il y a très longtemps.
À revoir peut-être juste après cette séance.
J'ai dû le voir à la sortie, je pense.
Comme tous les films de Fuller qui sont très intéressants.
1982, la sortie. Peut-être que la médiathèque en a un exemplaire en DVD. Voilà, en tout cas, pour l'instant, donc, c'est Chien blanc d'Anaïs Barbeau-Lavalette, à voir au navire à Aubenas, et bientôt au Quinconce de Vals-les-Bains. On plonge dans une autre ambiance.
Thank you so much for coming out tonight. Raise a glass and toast to all of you beautiful people. Cheers!
Anna said there was a man outside. He followed me home from the Woodbury event.
Get away from the window.
You all right?
It's amazing you didn't catch pneumonia.
Well, I haven't been sick in years.
You just got lost a minute ago.
No, I didn't get lost. Listen, I apologize if I made you feel uncomfortable the other night.
It's fine.
It's not fine.
My uncle talks about you a lot. My dad and I were maybe thinking you could care for him during the day. All you'd have to do is be there and go on walks and stuff. Why did you follow me home from the party? Or do you only remember when it's convenient?
I don't remember.
I don't remember, oui, c'est le problème. Memory de Michel Franco avec Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, notamment, qu'on a entendu. Tu es allé le voir, Didier, ce film de ce réalisateur donc mexicain, Michel Franco. Qu'en as-tu pensé ?
Que du bien. Que du bien, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Ce film, je vais le dire, je vais me rentrer un peu dans le détail. Donc, dans ce film, Sylvia, le personnage principal d'une femme d'une quarantaine d'années, interprétée par Jessica Chastain, semble mener une vie simple et tranquille. C'est du moins l'image qui se dégage du début du film. Encore que la première scène, où l'on la voit assister à une réunion d'alcooliques anonymes, laisse à penser que tout n'est pas aussi simple que ça dans la vie de cette femme. Et c'est ce qui va se révéler lorsqu'elle rencontre Sol. En effet, cette rencontre va réveiller en elle des souvenirs pour le moins douloureux. Alors le titre, pour commencer, Memory, en anglais, c'est à la fois les souvenirs et la mémoire. Et de fait, Sylvia est hantée par des souvenirs douloureux, et Sol, lui, perd la mémoire. Alors dans le film, on nous dit qu'il est sénile, en fait c'est plutôt comme un début d'Alzheimer. Très tôt, la forme même du film vient contrarier donc cette image d'une femme menant une vie simple et tranquille. En effet, Sylvia a de bons rapports avec sa fille, un boulot dans lequel elle semble à l'aise, elle a un logement décent, elle est entourée par la famille de sa sœur. Oui, mais voilà, il y a cette soirée au début du film, soirée où elle est prostrée, incapable de participer à la fête. Mais surtout, c'est ce travail sur la forme qui dément cette impression d'une vie simple, tranquille. Pas de profondeur de champ, le cadrage est resserré. Je pense à cette scène d'introduction où les personnages sont filmés en très gros plan. Si ce n'était l'éclairage, on verrait même le grain de la peau. Il y a aussi, et ce tout au long du film, cet éclairage diffus. Tout le film baigne dans la pénombre. Cette forme du film est en adéquation parfaite avec les tortures que Kassa et ses deux personnages.
C'est ce que tu disais, c'est ce qui t'a marqué vraiment fondamentalement.
Et en fait, c'est ce qu'on attend d'un film, l'adéquation entre la forme et le fond. On a tout dit quand on a dit ça. Alors, il y a aussi ces scènes récurrentes où on voit Sylvia se barricader chez elle. Encore une fois, le cadrage qui donne l'impression que son appartement est minuscule, alors qu'il ne l'est pas en fait, on le sait par ailleurs. Il y a aussi cette chanson « Whiter Shade of Pale », chanson très populaire des années 60 que tout le monde connaît, du groupe Procol Harum.
Qu'on a entendu dans la
voilà,
bande-annonce.
Qui revient sans cesse, comme une obsession, dans les scènes où Saul est le protagoniste. Voilà, il y a cette mise en scène extrêmement travaillée, extrêmement adéquate, qui impose l'image de deux êtres enfermés dans leur solitude, prisonniers, lui de sa perte de mémoire, elle de souvenirs traumatiques, et qui les empêche tous les deux de s'ouvrir au monde, d'être heureux, en quelque sorte. Un film très réussi, que j'ai pris énormément de plaisir à voir. Tu l'as dit, Michel Franco, le metteur en scène, est mexicain. Il a été primé à plusieurs reprises dans des festivals, et on comprend pourquoi. En conclusion, ce film m'a fait penser à ces exergues qu'on trouve au début des romans, sur la page de garde, vous savez. Et je pense là, si on devait mettre une phrase en exergue à ce film, on pourrait mettre ces deux vers du poète anglais, de ce très grand poète anglais, Philip Larkin. « They fuck you up, your mum and dad. They don't mean to, but they do. » Qu'on pourrait traduire par « Vos parents vous bousillent la vie. C'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est ce qu'ils font. » C'est à peu près ça que ce film met en scène. Voilà. Un film que je recommande chaleureusement.
Merci beaucoup, René. Et désolé, je t'ai appelé Didier tout à l'heure. Mais tu es souvent... Enfin, Didier est souvent à cette place. Donc, Memory de Michel Franco. Clara, tu n'es pas allée voir ce film, alors tu peux nous en parler. Memory, qu'as-tu à ajouter?
Mais que j'irai le voir.
D'accord. donc qui est à voir à Aubenas, et alors attention, j'ai un scoop, à partir du 20 juin le film sera, à votre avis, dans quel cinéma? C'est un scoop, hein.
Ce film?
Oui.
Ah, je sais pas.
Non, je sais pas du tout.
Tu vas le lire
au Grand Rex à Paris? Non.
Au cinéma des Vences.
Ah bon?
À Vivance. Et pourquoi donc?
Parce qu'ils ont trouvé une équipe.
Parce que ça y est, le cinéma des Vences rouvre la veille, le 19
bonne
juin.
Ah bah ça, c'est une voilà. Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle pour...
Ils ont réussi à se sortir de leurs problèmes.
Difficultés, exactement.
C'est beau, ça, quand ça avance.
Quels étaient leurs problèmes?
Pardon?
L'argent.
Non, par l'argent. Oh là, on va pas rentrer là-dedans, on va pas refaire les épisodes.
Non.
Mais c'est vrai qu'il y a eu des épisodes, on va dire, malheureux, qui ont mis peut-être en lumière certaines limites de compétences.
Ouais, c'est bien dit, ça. Elle a pas trop la rage, ça va.
Memory, oui, je me suis adoucie en cours d'émission. Ça va mieux.
C'est notre présence qui est apaisante.
Oh oui, énormément, ça me fait beaucoup de bien. Mais d'ailleurs, le prochain film, peut-être, va me faire beaucoup de bien aussi.
Au début, il n'y avait que les ténèbres, un vide immense. Il n'y avait rien, seulement un rêve. Qui êtes-vous tous les quatre?
Tu le sais pas?
Mais c'est ton rêve.
Ce sont tes créatures, tu les as créées, tu es responsable.
Les choses ont bien changé.
Ils n'ont donc plus besoin du créateur.
Ne crois pas ce qu'il dit. Tue-le.
Les quatre âmes du coyote de Aaron Goder. Un long métrage, oui, 1h46.
Oui, c'est long.
Oui, d'animation. Donc un long métrage hongrois qui a été prix du jury au Festival d'Annecy et qui était représentant honoris Oscar 2024. Oui.
Tout à fait.
Que tu es allé voir, puisque tu continues de regarder les films jeunes publics pour te faire une idée un petit peu de ce qu'on met entre les oreilles et
sous les yeux
des plus jeunes.
Oui, mais entre les oreilles, tu as raison. Oui, j'étais voir ça, et puis ça correspond à mon âme d'enfant, n'est-ce pas, c'est bien connu. Moi non plus, je n'ai pas la rage, je suis toute paix et innocence. Et donc c'est dans cet esprit que j'ai été voir Les Quatre âmes du coyote. Voilà. Alors, c'est un film tout hongrois, effectivement. 3 ans de travail, 8 ans pour rassembler l'argent par la production qui est hongroise. C'est distribué en Europe par un distributeur, j'ai oublié le nom, qui est spécialisé dans la diffusion du cinéma d'animation japonais. Donc on est effectivement dans ces grands formats et dans cette grande diversité dans l'esthétique de l'animation. On a beaucoup d'esthétiques différentes. Alors le pitch est assez simple. Les autorités et les entreprises tentent de faire passer un oléoduc dans le Dakota, du sud ou du nord, je sais plus. Ça doit être ça, oui. Et de chez les Indiens Lakota. Et effectivement, c'est une catastrophe, je dirais, écologique et anthropologique, dans la mesure où ça vient encore grignoter le territoire des nations premières, pour le dire rapidement. C'est un film qui, effectivement, est long, 1h43, et qui est assez complexe. Son titre, déjà, nous l'indique, « Les quatre âmes du coyote ». On sent tout de suite qu'il va y avoir quatre âmes, c'est-à-dire quatre vies d'un même personnage qu'il va falloir suivre. C'est le coyote qui est un peu tour à tour l'incarnation du mal, du diable ou de l'homme lui-même qui fait le mal ou d'un prophète différent. Enfin, les quatre vies, les quatre âmes du coyote, c'est assez complexe. Et effectivement... on a un traitement très esthétique, en particulier du monde des Indiens Dakota, avec leurs vêtements, le calumet de la paix, leur coiffure, leur tipi, etc. C'est très beau. On a aussi une très belle exposition du monde contemporain, avec les 4x4, l'oléoduc, les bulldozers qui avancent, les responsables de l'entreprise tirés à quatre épingles avec leur smartphone. Enfin, tout ça, il était très, 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 très bien fait. Et puis, alors, après, viennent se surimprimer dans d'autres esthétiques à chaque fois les mythes et légendes des Indiens Lakota, puis les mythes et légendes bibliques qui viennent en surimpression. On assiste à la colonisation anglaise de l'Amérique. On assiste à l'expansion de la nation américaine, américano-européenne, pendant, avant, après la guerre de sécession. On a même donc des personnages qui font le trajet inverse de celui de Christophe Colomb, puisqu'ils rallient l'Ouest à l'Est et débarquent en Europe à l'époque. Bon. Vous avez compris qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en 1h43, dans des esthétiques assez hétérogènes les unes les autres. Alors, c'est juste parce que, évidemment, quand le mythe biblique vient en surimpression sur les légendes indiennes, il est bon qu'on n'ait pas effectivement la même esthétique, sinon on confondrait complètement, surtout que les symboles et les mythes sont souvent très très proches, quasiment superposables.
Le syncrétisme a ses limites.
Oui, alors voilà, c'est-à-dire le syncrétisme a effectivement ses limites, même si on est très tenté. Et évidemment. Et donc, je me suis dit en sortant de la salle, où d'ailleurs il y avait un très jeune public, à mon avis trop jeune public, souvent parce que trop difficile à suivre à mon avis, même si je pense qu'un enfant de 7-8 ans ou même de 5 ans, lui, il va réussir à découper en morceaux et puis prendre du plaisir successivement. Bon, peu importe s'il n'a pas le... De toute façon... La diésèse complète, le récit complet, moi, je n'ai pas réussi à le reconstituer. Hein. Donc, alors que ce sont quand même des questions qui m'intéressent depuis un moment. Donc, voilà, c'est un petit peu la limite. Et donc, en sortant, je me suis dit que j'avais, dans ma petite série Jeune Public, assisté de nouveau à un film qui pêche par un phénomène de surenchère. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que le réalisateur avait du temps qu'il, le dernier Miyazaki,
oui,
c'était déjà,
je
te rappelles,
ouais. Mais après, Miyazaki, c'est à la fin de toute sa carrière où il veut tout condenser. Là, enfin, je ne sais pas, j'ignore qui est Aaron Goddard. Peut-être qu'il est à la fin de sa carrière et qu'il veut tout condenser. Mais...
Oui, peut-être. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est, je ne sais pas, un défaut de prise de recul. D'accord. En se posant simplement la question, mais est-ce que je suis encore accessible ? Est-ce qu'il y a une suffisante unité esthétique, par exemple, de l'œuvre ? Ça me pose un certain nombre de problèmes de ce point de vue-là. Et c'est vrai que, bon, là, c'est peut-être l'ancien prof qui parle, mais je trouve que, par conséquent, c'est assez peu didactique. On ne sait plus bien quel message, d'ailleurs un peu beaucoup syncrétique, on veut faire passer. Ça devient un petit peu difficile. Il y a de ça.
Pas de crabe.
Oui, un patchwork. Oui.
Une mosaïque. Allons-y. Un autre mot, Sylvain ?
Je m'en rappelle plus.
Un globi-boulga. D'accord.
Ça, c'est Casimir, ça.
Ouais, mais c'est... Oui, en effet. Donc, les quatre âmes du coyote.
Si.
À voir. Enfin, moi, ça m'a plutôt donné envie, ce que tu
D'accord,
disais. Ouais. Et surtout, sur, cette, sur ces traitements graphiques différents... pour accompagner quatre réalités, quatre âmes différentes, d'après ce que j'ai
un petit peu, mais comprends. C'est encore un peu plus complexe que ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a de très belles choses. À chaque fois, il y a de très belles choses.
Bon, en tout cas, à aller découvrir au cinéma Le Navire à Aubenas, où il est projeté, donc Les quatre âmes du coyote de Aaron Goddard. Merci beaucoup, Olivier. On poursuit avec René qui va nous parler du dernier refuge, puisque, oui, comme je le disais en introduction, en ce moment se déroule en Ardèche, mais aussi dans la Drôme, le Festival du film de solidarité internationale. Donc il y a deux séances, il y en a d'abord une, avant de te donner la parole René, il y en a d'abord une à l'USAS, avec Les héritiers de la colline d'Ousmane Zorom Samasekou. Ah. Donc ça, c'est samedi à 19h, un film qui relate les enjeux de pouvoir et la violence à Bamako. Avec, à la suite de la séance, comme celle que tu vas nous annoncer, un échange avec Sarah Cadon, du Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui est chargée de mission Paix et vivre ensemble. Ça doit te faire écho, Olivier. Samedi, à l'USAS, Les héritiers de la colline, ce documentaire... assez intéressant, j'en ai vu quelques images. Et puis le lendemain, donc le 2 juin, dimanche, à 17h30 au Navire, la projection du dernier refuge. René.
Oui, effectivement, je répète la date, dimanche 2 juin au Navire, 17h30. Donc, en deux mots, l'histoire du film. Aux portes du Sahel se dresse la maison du migrant. Tel est un refuge pour celles et ceux en route vers l'Europe ou sur le retour. Ici, ils font face à leurs propres histoires de migration. Que ressent-on ? De quoi a-t-on besoin lorsque nos rêves ont été enfouis dans le sable ou attendent d'être vécus ? Oui, donc j'insiste là-dessus. C'est pas uniquement une étape pour des migrants qui vont vers l'Europe, c'est aussi des migrants qui reviennent de l'Europe et qui donc, la plupart d'entre eux, j'imagine, vivent ça comme un échec. Voilà, tu l'as dit. C'est un film de Ousmane Samasekou, un film qui a reçu 7 prix internationaux, qui a eu beaucoup de succès partout où il a été projeté. Tu l'as dit, le film est proposé par le CCFD. Le CCFD, donc effectivement, lors de à l'issue de la projection, une rencontre avec Sarah Cadon, donc, dont tu viens de parler. Un mot simplement sur le CCFD, Terre Solidaire, qui est une association qui travaille pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui travaille à promouvoir une culture de la paix, du vivre ensemble et de l'ouverture à l'autre, et qui vient en aide matériellement dans 70 pays à plus de 3 millions de bénéficiaires directs. Voilà, je pense qu'il faut encourager tout le monde à aller voir ce film.
Oui, et puis voilà, on a aussi peu l'occasion aussi de voir des regards de cinéastes d'Afrique.
Voilà,
donc c'est bien aussi sûr. Évidemment pour le sujet, mais aussi pour le regard porté.
Surtout sur un problème aussi crucial que celui-là.
Donc ce sera dimanche à 17h30 au navire et la veille à l'USAS à 19h. Et je pense d'ailleurs que le cinéma sera à nouveau, c'est après travaux, puisqu'il y a eu des travaux dans la salle de cinéma de l'USAS. Et là, ça y est, ce sera la première projection dans un cinéma tout confort à 19h samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Un mot de fin, un mot d'agenda pour vous dire que ce soir, le tableau volé dont tu avais parlé, Olivier,
Très bien.
Est diffusé à Tueil, à la salle Vesprade, à 20h30.
Le tableau volé avec Alex Luz et Léa Drucker. Très très bon
de
film.
De Pascal Bonitzer. Et puis la ferme des Bertrands. À Marcolles-les-Eaux, au camping du Gourgetou,
que René avait beaucoup aimé.
Ben voilà, c'est une programmation pour vous. Donc ça, c'est demain. C'est ce soir. Ce soir à Tueil, à 20h30 pour le tableau volé. Et ce soir aussi, à 21h, la ferme des Bertrands, à Marcolles-les-Eaux. Et puis demain, la théorie du boxeur. Ce sera au croc de Géoran.
Géoran,
merci. Et voilà. Et la ferme des Bertrands, d'ailleurs, passera aussi mardi à Tueil.
D'accord.
Voilà. Ça avait beaucoup plu à René et à Didier. Hein.
J'ai adoré ce film.
La ferme des Bertrands. Donc, à ne pas manquer, vous avez deux possibilités encore d'aller le voir. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci Clara, merci Olivier, merci René, merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Et puis, merci à vous, auditrices, auditeurs, cinéphiles, qui nous écoutez régulièrement. Tous les vendredis à 12h10. On se retrouve donc peut-être la semaine prochaine déjà, pour un prochain Cinémascope. Ciao.